bonjour à tous. L'épidémie de coronavirus avec une recommandation ce matin de la Haute Autorité de Santé. Est-ce passé de 6 semaines le délai d'injection entre les 2 doses de vaccin? Une option raisonnable selon la Haute Autorité pour protéger les plus vulnérables tout en vaccinant plus de personnes. Sophie Bécherel dans un instant. Tout faire pour éviter un 3e confinement. La France impose un test PCR négatif à partir de demain aux ressortissants européens arrivant en avion ou en bateau. L'Europe renforce ses dispositif de contrôle aux frontières. Plusieurs milliers de manifestants à Moscou en soutien à l'opposant Alexei Navalny. La police russe multiplie les interpellations. Dans ce journal également, les épreuves de spécialité au baccalauréat remplacées par le contrôle continu. Invité de ce journal, Rodrigo Arenas, co-président de la FCPE, principale fédération de parents d'élèves. La prescription culture avec un événement musical exceptionnel ce soir à Radio France et sur France Inter. Une nuit de la radio pour la musique avec le concert Hyper Nuit. La météo encore perturbée aujourd'hui avec de la pluie à un moment ou à un autre de la journée sur l'ensemble du territoire. Jean-Michel Golinski à la fin de cette édition. À 13h20, Secret d'info. Au programme aujourd'hui, Jacques Monin.
Eh bien, une enquête sur le management concertatif. Alors, sur le papier, c'est très séduisant, mais nous verrons que dans le groupe Hervé, qui emploie 3000 personnes, on catégorise les salariés en moutons, en renards et en dauphins.
À tout à l'heure, 13h20. France Inter. La campagne de vaccination en France se poursuit avec encore aujourd'hui beaucoup d'interrogations et d'incertitudes, notamment autour des délais de livraison des vaccins. Et face aux tensions sur la production de vaccins et la progression de l'épidémie, la Haute Autorité de Santé recommande ce matin d'espacer le délai de 6 semaines entre les 2 injections. La Haute Autorité préconise d'élargir à ce délai au lieu des 3 ou 4 semaines prévues jusqu'ici. C'est une question d'urgence sanitaire, Sophie Bécherel.
À ce jour, la France ne dispose que de 2 vaccins et encore, celui de Moderna n'a pas commencé à être injecté. C'est une situation inconfortable et dans la course contre la montre qui se joue contre les variants, il faut vacciner le plus grand nombre de personnes et le plus vite possible. Décaler l'injection de la 2e dose du vaccin à 6 semaines va permettre de protéger dès le mois de février 700 000 personnes supplémentaires selon la Haute Autorité de Santé, à condition bien sûr que sa recommandation soit mise en œuvre dès maintenant. Est-ce que cela veut dire que les rendez-vous déjà pris par les personnes qui ont reçu leur première injection seront décalées? C'est au gouvernement d'en décider, selon la HAS. Elle penche cependant pour ne pas désorganiser la logistique déjà mise en place, en particulier dans les EHPAD, ce qui tend à dire que le calendrier ne sera pas modifié. Elle répète qu'il ne faut pas faire l'impasse sur la 2e dose parce qu'elle apporte une immunité plus longue dans le temps. L'instance se prononce par ailleurs sur les tests salivaires RT-PCR. Ils sont certes moins sensibles que les tests nasopharyngés, 85% au lieu de 92%, mais ils ont un intérêt, celui d'être mieux tolérés par certains. Et c'est un atout, en particulier si on est amené à faire régulièrement des dépistages massifs et répétés dans les écoles ou les universités par exemple.
Sophie Bécherel, merci. Et malgré les délais de livraison des vaccins annoncés par les industriels, Pfizer, BioNTech la semaine dernière et plus récemment AstraZeneca qui attend vraisemblablement pour la semaine prochaine le feu vert de l'Agence européenne du médicament. Malgré ces retards, le plan de vaccination en France n'est pas remis en cause, comme l'assure Agnès Pannier-Runacher. La ministre déléguée à l'industrie était ce matin l'invitée d'Alexandra Ben Saïd dans On n'arrête pas l'écho sur France Inter.
On avait indiqué 1 million de personnes vaccinées à la fin du mois de janvier. Nous sommes au-delà de 950 000 aujourd'hui. Donc cet objectif sera dépassé. Nous avons également indiqué 15 millions de personnes vaccinées au mois de juin. Je suis raisonnablement confiante pour que cet objectif soit dépassé. Et entre les deux, nous gérons des bonnes nouvelles et des mauvaises nouvelles au rythme de mise en place à la fois des chaînes de production industrielle, des aléas.
Est-ce que Sanofi, par exemple, qui a des usines, peut produire en France? Visiblement, AstraZeneca n'a pas envie.
AstraZeneca dit, nous on veut se concentrer sur notre premier site en Belgique et ensuite, bien entendu, on pourra discuter. D'autres laboratoires sont intéressés par les capacités de production de Sanofi et il faut trouver la meilleure balance industrielle qui nous permet d'avoir le meilleur grand nombre de doses le plus rapidement possible.
Agnès Pannier-Runacher avec Alexandra Ben Saïd. Dans ce contexte, pour contenir la propagation du virus, l'Europe rétablit les contrôles aux frontières et la France, suivant l'exemple de la plupart de ses voisins, va imposer à partir de demain dimanche des tests négatifs de moins de 72 heures aux ressortissants européens arrivant par avion ou par bateau. Dans tout l'espace européen, les dispositifs de contrôle aux frontières se renforcent. Bonjour Bertrand Galichet.
Bonjour Frédéric.
Ces dispositifs se durcissent, mais leur harmonisation laisse encore à désirer.
Oui, l'harmonisation ne peut avoir lieu que sur la base du volontariat, puisque ces questions relèvent de la souveraineté des États, et jusqu'à présent, chacun fait bien ce qu'il veut, malgré les efforts de la Commission européenne pour tenter de mettre un peu de cohérence dans les formalités de voyage. Bruxelles a décidé d'ajouter une catégorie rouge foncé à ces indicateurs de zone à risque, qui pourrait contraindre ceux qui en viennent à présenter un test négatif avant leur départ et à se soumettre à une quarantaine à l'arrivée. Une cartographie censée c'est clarifier la situation, sauf que la plupart des pays de l'Union colorient la carte de l'Europe selon leurs propres critères, avec comme résultat des procédures différentes. Ainsi, l'Autriche exige une quarantaine de 10 jours pour les voyageurs venant de zones à risque. Un test PCR permet le cas échéant de raccourcir ce délai. L'Italie, elle, impose une surveillance sanitaire de 14 jours à l'arrivée, si le déplacement est jugé non essentiel. Et pour entrer au Danemark, en provenance d'un autre pays de l'Union européenne ou de l'espace Schengen, il faut une raison valable. Depuis le 9 janvier, les arrivants doivent aussi présenter un test négatif effectué au plus tard 24 heures avant le départ.
Bertrand Galichet, merci. Et puis il y a la question des variants que les organisations de santé surveillent comme le lait sur le feu. Le variant sud-africain et le variant britannique qui inspirent beaucoup de craintes, et c'est d'ailleurs l'une des raisons qui ont poussé la Belgique à interdire à sa population les voyages non essentiels hors de ses frontières. Hier soir à Londres, le Premier ministre britannique Boris Johnson a suggéré que le variant britannique pourrait être davantage mortel et peut-être davantage contagieux. Londres, Maxence Peignet.
Les unes de la presse britannique ce week-end balayent tout espoir d'un retour à la normale prochain pour le Royaume-Uni. La souche mutante est plus mortelle, titre le Daily Telegraph, qui se demande si le confinement ne va pas durer de plus longtemps que prévu. La situation des hôpitaux est précaire, en une du Financial Times, et le virus est là pour encore longtemps, selon le Times. Il faut dire qu'hier soir, le gouvernement ne s'est pas montré rassurant, même s'il est resté prudent. Les preuves ne sont pas encore solides et il faudra plus d'études, a insisté Patrick Vallens, son conseiller scientifique en chef. Mais selon lui, le risque de mourir du variant britannique se situe entre 13 et 14 pour 1000 pour une personne âgée de 60 ans, soit une mortalité de 1,3%. Le risque lié à la souche initiale du virus est de 10 pour 1000, soit une mortalité de 1%. Les raisons de cette dangerosité accrue ne sont pas encore claires d'après Patrick Vallens, qui a tenté de rassurer en indiquant n'avoir aucune preuve que le vaccin soit moins efficace contre cette mutation qui est désormais majoritaire en Grande-Bretagne. Londres, Maxence Peignet, France Inter.
L'épidémie de coronavirus et cette mesure qui agite les lycées depuis son annonce avant-hier soir par le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. En raison de la crise sanitaire, les épreuves de spécialité du baccalauréat prévues en mars sont remplacées par le contrôle continu. Cela concerne les bacs généraux et technologiques, c'est-à-dire 500 540 000 candidats au bac. Le ministre de l'Éducation a pris cette décision pour répondre aux inquiétudes des professeurs, des parents, des élèves et des syndicats qui demandaient le report ou l'annulation des épreuves depuis plusieurs semaines. Du côté des chefs d'établissement, la nouvelle est bien accueillie. Pour les élèves de terminale, l'annulation des épreuves de spécialité provoque un sentiment plus mitigé, même si certains sont soulagés. Exemple au lycée Bourdon de Guéret, Marie-Jeanne Delepaule.
Depuis qu'ils savent que les épreuves de spécialité sont annulées, c'est zen attitude pour Gabin et Louis, 17 ans.
Je pense que le bac, du coup, il est peut-être plus simple cette année que les autres si on avait passé l'écrit.
Oh ben, la plupart étaient contents. Hein. Personnellement, je suis plus confiant, puisque déjà, ça évacue du stress. Vu que c'est plus sur des contrôles, il y a plus de chances de se rattraper que de se louper sur un seul examen.
Il faut dire qu'il a des bonnes notes depuis le début de l'année dans ses deux spécialités, mais pour ceux qui comptaient bachoter à la dernière minute comme June, ça sera plus compliqué.
Enfin, moi, qui travaille pas beaucoup, du coup, je suis un peu dans... Je sais pas comment dire. Dans la merde, quoi.
Et dans ce cas-là, il faut faire comme Guillaume, sortir sa calculatrice pour connaître sa moyenne.
Ce qu'il y a, c'est que c'est coef 16 sur nos matières de spé. Bah, ça peut passer. Faut juste que je travaille un peu plus, c'est tout.
L'an dernier, ils ont déjà passé le bac français en contrôle continu. Cette année, il ne leur reste que deux vraies épreuves en juin, la philo et le fameux grand oral. Mais évidemment, tout ça peut encore changer.
On a été habitués là depuis le début de l'année. Ça a toujours été le flou. On s'habitue, puis c'est tout. On n'a pas le choix de toute façon.
On est quand même pas mal entouré par les profs, ils nous aident beaucoup.
Mais les profs, ils ne les voient que 2 semaines sur 3. Le reste du temps, c'est à la maison, derrière l'écran.
Marie-Jeanne Delepaul de France Bleu Creuse, invitée de ce journal, Rodrigo Arenas, co-président de la FCPE, première fédération de parents d'élèves. Bonjour Rodrigo Arenas.
Bonjour.
Alors cette annulation des épreuves de spécialité, donc remplacée par un contrôle continu, occupe beaucoup les élèves de terminale et leurs parents. Il reste 2 épreuves pour le bac 2021, la philo, le grand oral, en juin. Est-ce que pour vous, il est hors de question d'y renoncer ?
Ce qui est hors de question pour nous, c'est surtout que le ministère décide tout seul des choses à prendre, surtout que la décision de faire état, nous la proposons depuis le mois de novembre avec des organisations syndicales. La question n'est pas bac ou pas bac, la question est comment est-ce que nous organisons un lycée qui soit bienveillant et qui soit au service de nos enfants dans la situation sanitaire dans laquelle nous nous trouvons. Aujourd'hui, les enfants ne sont pas préparés de la même façon aux épreuves, puisque chaque établissement s'organise du mieux qu'il peut en fonction de la situation sanitaire et du bâti scolaire à sa disposition. Et donc, à ce titre-là, quand nous ne préparons pas les élèves de la même façon, quand ils n'avancent pas au même rythme et que les programmes, nous le savons, ne seront pas finis à la fin de l'année scolaire en raison de la crise sanitaire, eh bien, il faut adapter l'école à cette situation-là et ne pas attendre le dernier moment. C'est pour ça que nous proposons, depuis maintenant plusieurs semaines, une sorte de conseil de défense de l'éducation nationale qui réunit les acteurs de l'éducation nationale pour prendre les meilleures décisions de façon bienveillante au service des enfants, parce que nos enfants sont des super-héros. Ils passent le bac dans des conditions que nous tous ne connaissons pas, dans une pandémie, dans l'enfermement, avec l'enseignement à distance auquel nous ne sommes pas préparés ni formés. Nos enfants sont extrêmement résilients et il faut leur tirer le chapeau. Ils passent des examens dans une période que nous-mêmes avons bien du mal à comprendre et à anticiper, donc il faut l'anticiper collectivement.
Les enfants sont des super-héros, des super-héros, dites-vous, pour les élèves de terminale et puis dans les lycées et les collèges. L'autre reproche que l'on peut faire après l'annulation des épreuves de spécialité, c'est peut-être la crainte d'un bac au rabais. Certains lycéens le disent.
Écoutez, ce débat existe depuis Socrate, où les générations nouvelles portent toujours le discrédit sur les générations anciennes. Les enfants ne sont que le reflet de ce que disent les parents et un peu de déclinisme aussi. Nos enfants, au contraire, sont extrêmement résilients, encore une fois. Ils vont à l'école, ils suivent les enseignements, ils respectent leurs enseignants, comme viennent de témoigner vos précédents auditeurs. Nos enfants, au contraire, font face d'une façon extrêmement stoïque à cette école qui, pour beaucoup, est déboussolée. Et parce que d'ailleurs en ce moment vous avez une manifestation de la FCPE de Paris car les absences non remplacées sont légion. Les gestes barrières ne peuvent pas être respectés faute d'adultes, faute de gestes barrières, c'est-à-dire de sanitaires pour se laver les mains, faute de masques parfois pour les enfants qui les gardent toute la journée parce qu'ils ne savent pas ou qu'ils n'ont pas forcément les moyens de le faire ou que leurs parents ne voient pas les choses de façon aussi affirmée que cela. Vous voyez, nos enfants aujourd'hui sont extrêmement vaillants face à ce que, y compris les pouvoirs publics, ont du mal à faire face, rappelez-vous, les différents changements de direction de l'exécutif par rapport au confinement. Nos enfants sont fragiles par définition, ils n'ont pas la maturité des adultes et au contraire, il faut leur rendre hommage. Le bac d'aujourd'hui, il nous semble, a beaucoup plus de valeur, si on peut exprimer ainsi, que celui que nous avons eu dans des conditions quasi idéales.
Dernière question, Rodrigo Arenas, concernant la pandémie de coronavirus et un troisième confinement qui n'est plus à exclure, oui. L'hypothèse d'allonger les vacances scolaires de février de 2 à 3 semaines. Est-ce que cela vous paraît une bonne idée ?
Ce qui est une bonne idée, encore une fois, c'est de réunir la communauté éducative, car si nous touchons aux vacances de février, inévitablement, il faudra toucher aussi au calendrier scolaire dans son ensemble. Donc ces décisions-là se font dans la concertation et pas au dernier moment. Pourquoi ? Parce que simplement, les écoles doivent s'adapter. Les écoles doivent finalement répondre à ces changements qui sont liés évidemment à la situation sanitaire. Et donc, pour cela, s'il faut changer au calendrier scolaire, il faut aussi se dire que les programmes ne seront pas atteints dans leur intégralité. Donc aujourd'hui, il faut que nous décidions collectivement qu'est-ce que nous attendons de l'enfant, pourquoi ils vont à l'école et dans quelles conditions. Et quand nous savons ce pourquoi nous allons à l'école et ce pourquoi tous les jours les enfants se lèvent, les enseignants se lèvent pour enseigner et prendre soin des enfants et les parents préparent les enfants pour aller à l'école, si nous savons pourquoi et avec quel objectif, alors nous pourrons organiser matériellement et humainement l'école qui se mette au service des enfants, car aujourd'hui, force est de constater, c'est que nous demandons plutôt à nos enfants d'être au service de l'école.
Merci.
Pour inverser cette grammaire-là, c'est ça être bienveillant pour les enfants.
Merci Rodrigo Arenas, co-président de la FCPE. Merci à vous. À l'étranger, en Russie, dans plusieurs villes du pays, des dizaines de personnes ont été arrêtées par la police anti-émeute. Une journée de manifestation est organisée à travers le pays à l'appel des partisans d'Alexei Navalny pour exiger sa libération. Le célèbre militant anticorruption rentré dimanche dernier à Moscou avait été arrêté à sa descente d'avion. Les rassemblements prévus aujourd'hui n'ont pas été autorisés. Et à Moscou, Léo Vidal, il y a beaucoup de monde.
Alors effectivement, beaucoup de monde à Moscou, même si c'est difficile de faire une idée précise du nombre de manifestants vu du sol. Il n'y a pas encore de décompte ni officiel ni de la part des organisateurs ou des organisations dans la société civile qui s'occupent en général de décompter et de donner des estimations du nombre de manifestants. Cependant, à vue d'œil, on table certainement sur plusieurs milliers de personnes, plus d'une dizaine de milliers très probablement. Le fait est qu'il est difficile d'accéder à la place centrale où la manifestation était censée être organisée, qui est entièrement barricadée par la police. Donc les manifestants se sont scindés en plusieurs groupes de part et d'autre de cette place-là. Pour l'instant, cela dit, l'ambiance reste assez détendue. On a vu beaucoup d'arrestations dans le reste du pays, pas mal de violences dans des villes plus à l'est, comme à Khabarovsk, à Vladivostok et à Ekaterinbourg. À Moscou, pour l'instant, ça reste relativement calme. Il y a eu des arrestations dans la matinée, avant le début officiel de la manifestation. Pour l'instant, la police se contente de maintenir les manifestants sur place et d'appeler à se disperser, mais il n'y a plus d'interpellation, en tout cas pour le moment.
Léo Vidal à Moscou, merci. En Italie, dans la suite du mouvement MeToo, l'actrice Asia Argento accuse Rob Cohen, réalisateur américain notamment du film Fast and Furious. Elle l'accuse d'agression sexuelle. Asia Argento s'est confiée dans un entretien au quotidien italien, le Corriere della Sera, Olivier Tosseri.
L'égérie du mouvement MeToo poursuit sa dénonciation des abus sexuels dans le monde du cinéma. Elle avait été l'une des premières à déclarer avoir été violée par le producteur Harvey Weinstein. Elle accuse cette fois Rob Cohen. Asia Argento affirme que le réalisateur américain a abusé d'elle sur le tournage du premier opus de la saga Fast and Furious. Il lui aurait fait boire du GHB, une drogue utilisée par les violeurs. À l'époque, je ne savais pas trop ce que c'était. Je me suis réveillé le matin nu dans son lit, explique l'actrice italienne. Un porte-parole de Rob Cohen nie catégoriquement ces accusations. Elles datent de 2002. C'est déconcertant, surtout quand on considère ce qui a été dit sur elle ces dernières années, a-t-il ajouté. Asia Argento a elle-même été accusée en 2018 d'agression sexuelle par l'acteur américain Jimmy Bennett pour des faits commis alors qu'il avait 17 ans. Asia Argento affirme que ces nouvelles accusations doivent aider les femmes victimes de violences sexuelles à dénoncer leurs agresseurs. Elle figure dans son autobiographie « Anatomie d'un cœur sauvage » qui paraîtra le 26 janvier prochain en Italie. Rome, Olivier Tosseri, France Inter.
La prescription culture de ce week-end avec évidemment un événement musical exceptionnel ce soir en direct sur France Inter à partir de 21h. Un concert hyper nuit avec 100 artistes présents à Radio France. Plus de 40 concerts, tous styles confondus. C'est une initiative, Mathieu Culeron, qui vient d'un constat d'urgence des artistes.
Folie douce au carré.
À la tête du collectif On remet le son, Juliette Armanet et Malik Judy se sont tournés vers Radio France pour organiser cette soirée où plus de 100 artistes seront diffusés en 6 heures de concert. Une initiative qui vient d'une profonde angoisse qui s'est emparée de la scène musicale française. Malik Judy.
C'est monté d'une peur et se dire « tiens, il faut faire quelque chose ». Après, rapidement, là-dessus, on demande à nos managers, à nos entourages proches de venir nous aider, à la gamme aussi. Et rapidement, on se tourne vers Didier Varro. Et là-dessus est né tout de suite, on s'est dit « tiens, une nuit de radio, ce serait super pour faire un peu un cri d'amour à la musique pour notre raison de vivre, quoi.
Diffusé simultanément sur France Inter, France Musique, France Bleu, FIP, Move, ce concert géant est aussi un cri à la création musicale, un hommage aux artistes, comme le confirme Malik Judy, l'un des créateurs de cette soirée.
C'est aussi une façon de dire, que tout ça existe encore, que la création existe encore, que les concerts, même s'ils n'ont pas lieu, et ça existe encore, que nous on se prépare à ça. C'est un main dans la main avec Radio France aussi, Radio France, les artistes, pour réhabituer les gens à revenir en concert quand ça vous sera ouvert.
Jazz, hip-hop, chanson rock, plus de 40 groupes vont se succéder ce soir à Radio France, qui depuis peu s'appelle la maison de la radio et de la musique.
Une nuit de radio pour la musique, ce soir à partir de 21h. En mode sport avec la reprise du championnat du monde des rallyes, comme chaque année. La compétition débute avec le rallye de Monte-Carlo, à huis clos, cette année. Pas de spectateurs au bord des routes, les pilotes et leurs équipes sont dans une bulle. 4 jours de course et les premières spéciales débutent en pleine nuit pour que tout le monde soit rentré avant le couvre-feu à 18h, Guillaume Batin.
Le parc fermé où sont installées les équipes n'a jamais aussi bien porté son nom. Les pilotes et leurs mécaniciens restent entre eux dans une bulle. Pas de public, pas de journalistes. C'est le protocole imposé par la préfecture des Hautes-Alpes et les routes sont bien gardées par 300 commissaires de course et gendarmes.
Il y a d'accord, H-120, il n'y a personne sur l'axe.
Les regroupements sont interdits, mais il y a une tolérance pour les riverains. Thierry est garagiste à Saint-Firmin.
Oui, on sort, on regarde les voitures en liaison pour les voir, mais sinon, il n'y a pas de fête, il n'y a pas d'ambiance. C'est très triste. D'habitude, le jour du rallye, on ferme le garage, déjà, on est dans les spéciales, on va voir les voitures, quoi. Entre amis, ouais. C'est la seule activité de l'année ici.
Et là, du coup, vous êtes tout seul.
Malheureux comme une pierre.
Avec ou sans public, le septuple champion du monde, Sébastien Ogier, est toujours en course pour s'imposer une huitième fois à Monaco.
Quand on a connu les ambiances des années précédentes, on aimerait les avoir autour de nous, mais après, avec le contexte actuel, je pense qu'on n'a pas le choix. Les fans ne sont pas présents physiquement, mais ils nous suivent derrière leurs écrans et je pense que c'est mieux que rien.
Et la saison risque de ressembler à la précédente. Le prochain rallye prévu en Suède, mi-février, est annulé.
Le rallye de Monte-Carlo, Guillaume Batin. Le temps encore perturbé pour cet après-midi et pour demain.
La météo avec Via Santé, la mutuelle d'AG2R La Mondiale. Avec Via Santé, devenons tous acteurs de notre santé. Et vous aujourd'hui, comment ça va ?
Jean-Michel Golinski.
Un week-end placé sous le signe d'un temps frais, perturbé, venté, parfois neigeux. Aujourd'hui, il pleut ou il va pleuvoir sur une large moitié nord du pays, avec parfois de la neige jusqu'en plaine, notamment près de la Belgique et des frontières du nord-est. La Bretagne et les Pays de la Loire vont, quant à eux, progressivement sortir la tête des nuages. Dans la moitié sud, excepté près de la Méditerranée, l'ambiance sera également maussade, avec des précipitations marquées en fin de journée au sud de la Garonne. Le vent, moins fort qu'en matinée près de l'océan et sur la Corse, va tout de même rester sensible et il va neiger sur l'ensemble des massifs. Demain, poursuite du temps perturbé et pluvieux d'ouest en est, avec un risque de neige en pleine en journée sur la Normandie, puis du nord à la région parisienne et ensuite sur le Grand Est. Seul le bassin méditerranéen va conserver un temps sec. Le vent sort également de la partie près de l'océan et de la Méditerranée, avec à nouveau de la neige en montagne.